deux questions. Je n'arrive pas à comprendre comment la foi nous donne un nouveau jugement, puisqu'on est en dehors de toute expérience et dans l'ordre intentionnel qui est très fragile. La foi dépasse l'intentionnel parce qu'elle est divine. Votre connaissance est intentionnelle et la foi est substantielle parce qu'elle est divine. Ben, ne voyez pas la foi dans le prolongement de votre intelligence. Voyez la foi qui vient d'en haut. C'est un don gratuit de Dieu. Naturellement, je ne suis pas croyant. Naturellement, je suis un animal raisonnable, capable de recevoir de Dieu ce don. Vous voyez, on voit toujours en montant, nous. Vous voyez, en descendant. Et c'est pour ça que c'est très bien cette objection, parce que ça fait montrer comment on peut regarder la foi dans deux regards différents. Il y en a un qui est comme une disposition, mais qui n'atteint pas la foi. La foi est un jugement divin. Je suis fils de Dieu quand je suis croyant. Je ne suis plus fils de l'homme. Je le suis toujours, mais je dépasse le fils de l'homme. Et je crois. La foi est un acte, une adhésion d'amour à une réalité qui me dépasse. Alors, elle a un mode intentionnel, parce que c'est mon intelligence qui fait un acte de foi. Donc, du côté de l'intelligence, du côté subjectif, c'est mon intelligence. Mais du côté objectif, c'est Dieu. Et l'intentionnalité est dépassée dans la foi. Et je touche le mystère de Dieu. Alors, comprenez bien, nous n'avons pas de concept nouveau par la foi. C'est ça qu'il faut bien saisir. Vous voyez, si elle était intentionnelle, vous auriez un concept. Vous auriez un concept de croyant. Mais comme elle n'est pas intentionnelle, vous n'avez pas de concept. La foi, c'est une activité qui, point de vue de notre intelligence raisonnable, rationnelle, au point de vue de notre intelligence par genre et par différence spécifique, mon intelligence dont j'ai conscience immédiatement, mon intelligence scientifique, elle est intentionnelle, mon intelligence scientifique. Et très souvent, le savant comprend que son intelligence est comme la foi. Elle mord sur le réel directement. Non, elle est intentionnelle. Vous formez un concept. Vous n'avez pas de concept de foi. Vous n'avez qu'un jugement. Si vous aviez un concept de foi, vous auriez une parole de foi qui serait propre au croyant et que seul le croyant comprendrait. Ah, c'est vrai que seul le croyant comprend l'acte de foi. Le positiviste reste toujours dans l'intentionnalité. Et si on ne fait pas grande attention, on retombe dans l'intentionnalité. Parce qu'au fond, on ne fait plus un acte de foi, on vit uniquement au niveau de la parole, la transmission. Quand je prêche, je garde un mode intentionnel, forcément. Mais le croyant qui prêche, quand il fait, il touche le mystère de Dieu. Et c'est la très grande différence de la foi et de la métaphysique. En métaphysique, vous êtes sur une zone super intentionnel, mais c'est de l'intentionnel. C'est du super intentionnel par rapport aux genres et différences spécifiques. Et on entre dans l'analogie. On a un registre de vie intentionnelle très différent. Quand vous pensez l'être, il faut le penser, pas répéter. Quand vous pensez l'être, qu'est-ce que c'est que l'être ? Quand vous dites ceci est, vous dépassez le ceci. Et c'est ça qui est très curieux dans le jugement d'existence. Vous dépassez le ceci et vous êtes tout entier orienté vers être. Ceci est. Alors, qu'est-ce que vous atteignez quand vous dites ceci est ? Vous atteignez l'être. Vous quittez le crapaud et vous avez son devenir. Parce que l'être du crapaud, il est dans le devenir. Le crapaud, il existe tant qu'il vit. Hein. Il est dans le devenir. Il n'a pas d'âme spirituelle. Nous avons une âme spirituelle qui fait que, au-delà de la mort, il y a l'être de mon âme. Mon corps mourra et ne vivra plus, mais mon âme vivra et le croyant verra Dieu. Il y a une continuité entre la foi et la vision béatifique. Il y a une continuité. Ma foi est toute tendue vers la vision béatifique. Alors, ça peut vous aider à comprendre l'aspect substantiel de la foi. La vision béatifique. La vision béatifique n'est pas intentionnelle. Hein. Elle ne peut pas être intentionnelle. Ce qu'on dit vision, pour bien montrer que c'est direct, c'est immédiat. Je comprends que c'est pas commode, mais ce qui montre constamment qu'on reste dans la foi intentionnelle, la foi intentionnelle ne peut pas être contemplative. Comment voulez-vous que la foi intentionnelle soit contemplative ? On ne contemple pas les idées. On contemple la réalité. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez une personne, vous n'aimez pas l'intentionnalité de la personne. Quand tu dis « mon ami », vous ne voulez pas dire oh, « je reste dans mon intentionnalité ». Mais beaucoup de personnes restent dans leur intentionnalité. Beaucoup d'amis, mais ils n'ont pas atteint la véritable amitié. Ils sont dans l'intentionnalité. C'est la poupée. La poupée, vous l'aimez dans son intentionnalité. Ah oui, 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 oui. Parce que votre intentionnalité est plus noble que la poupée. Les idoles sont moins nobles que ceux qui l'ont fait. Parce que ceux qui l'ont fait sont capables d'être fils de Dieu en se convertissant. Tandis que l'idole reste l'idole. Et sa noblesse, c'est l'intentionnalité. Elle n'a pas d'autre noblesse. Il faut arriver à dépasser l'intentionnalité dans le jugement. Quand vous jugez, prenez votre ami, parce que ça, c'est très clair que dans l'amitié, il y a un dépassement d'intentionnalité. Parce que si vous aimez votre ami uniquement au niveau intentionnalité, vous continuez de vivre votre rêve. Votre rêve de l'amitié. J'ai un ami. Un jeune ami. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai un ami. Vous voyez, vous considérez l'ami comme une poupée. Et beaucoup de gens aiment comme ça. C'est leur belle poupée. C'est le réalisme de l'intelligence, c'est quelque chose de très particulier. Et tant qu'on n'a pas saisi le réalisme de l'intelligence, on n'entre pas en métaphysique. On prolonge, voyez, on prolonge la science et on fait une méta-science. C'est pour ça que c'est dangereux de dire métaphysique, mais c'est une méta-science. Donc, une intelligibilité suprême des transcendentaux. Mais vous n'atteignez pas la réalité. Le jugement d'existence, c'est pour ça que c'est tellement important de saisir ce que c'est que le jugement d'existence, ceci est. Vous dépassez le ceci, vous regardez. Et quand vous prenez ceci est, vous pouvez mettre ceci, toute espèce de réalité, n'importe quelle réalité, ceci, ça, et. Et toute votre intention est sur « et ». Alors c'est ça qui est très, très spécial dans le jugement d'existence, c'est que l'attribution « et » devient principale. Il faut mettre une majuscule à « et ». Ceci « est ». Vous mettez ceci en petit, en minuscule. Ceci, c'est n'importe quoi. Et quand vous dites « et », vous touchez une réalité que vous ne pouvez pas ramener à l'intentionnalité. « Et », ça veut dire « existe ». C'est pas simplement la copule. La copule est intentionnelle. Et quand la scolastique dira toujours « et », c'est la copule, mais... pas la scolastique, mais beaucoup disent ça. Beaucoup de scolastiques disent ça. Et c'est la copule. C'est-à-dire ce qui unit l'attribut et le sujet. Alors, c'est pas du tout l'être. C'est un peu de gomme pour coller le sujet et l'attribut. Et pour beaucoup, et représente ça. Alors, voyez, comment voulez-vous entrer en métaphysique si « et » est intentionnel ? Alors, toute votre métaphysique est intentionnelle. Votre mode humain de connaître est intentionnel, mais la réalité que vous touchez dépasse. On va y revenir, vous savez ça, parce que ça met du temps. Nous sommes tous pris très profondément par le positivisme. Et le positivisme reste dans l'intentionnalité. Auguste Comte n'a jamais saisi ce qui était. Il est resté dans son intelligence. Saint Thomas nous dit que par rapport aux réalités supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. Très juste. Or, quand je pose un jugement d'existence sur un autre homme, je suis en face d'une réalité qui me dépasse. Oui. Quelle est la place de l'amour ? C'est parce que cette réalité qui me dépasse que je l'aime. Dès que cette réalité, je la vois comme me dépassant, alors je l'aime. Elle est plus grande que moi. Je l'aime. Quelle est la place de l'amour, de la volonté, pour pouvoir accepter cette transcendance? C'est l'amour qui accepte cette transcendance, la transcendance de l'autre. Donc, dois-je aimer pour faire de la métaphysique? Oui. Je dois aimer la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'entrerez jamais en métaphysique. La seule manière de dépasser Kant, c'est de voir que l'amour est antérieur à toute connaissance. Je désire faire de la métaphysique. Je veux aimer la vérité. L'amour, comprenez, dès que vous touchez une réalité du point de vue de l'être, vous aimez l'être parce que l'être est bon. Et il est pour vous bon, même si il a une gueule particulière, parce qu'il prend quelquefois des drôles d'air, l'être, il a une gueule spéciale, pas très agréable. Mais il est. C'était ce bandit qu'on recherchait, n'est-ce pas? J'ai déjà dit ça. Ce bandit qu'on recherchait. Dans Genève, il y avait la tête de ce bandit. Alors, un homme vient, demande au père Marie-Alain s'il peut le voir. Il lui dit, regardez-moi bien. Alors, il enlève ça. Il enlève tout ce qui était faux. Vous me reconnaissez? Je suis sur l'affiche. Il avait tout changé. Il avait pris une perruque, il avait tout changé. On ne le reconnaissait pas. Mais c'est comme ça l'être. Il peut se manifester d'une façon. Parce que vous changez. Vous changez de toilette. Vous changez d'extérieur. On va tout changer. L'être ne change pas. Ce bandit était toujours le bandit. Et la réalité, c'est ça. Et il se cachait. Le monde cache l'être. Les propagandes cachent l'être. Toutes les propagandes cachent la réalité. Il la rend aimable. Aimable selon le siècle, aimable selon les individus, aimable et attire. La réalité, elle est. Il n'y a qu'elle que j'aime. Ces falsifications, je suis attiré, je suis médusé par ça. Elles me séduisent momentanément. Je vis de séduction. Pas de métaphysique. La métaphysique essaie de supprimer les séductions pour voir la réalité vraie derrière. Et c'est comme ça que la métaphysique seule peut atteindre Dieu. La séduction ne peut jamais atteindre Dieu. Je vais de séduction en séduction. Mais je reste dans le domaine des séductions. Je reste dans le domaine des intentionnalités humaines. Et l'art humain, la plupart du temps, demeure dans l'intentionnel. Le grand art dépasse l'intentionnel. Mais la plupart du temps, c'est ça, les gens sont séduits. Ah, c'est cocasse, c'est nouveau. Oui, mais gratter un peu, purement intentionnel. C'est la séduction. Vous voyez, au fond, le métaphysicien quitte le monde de séduction et entre dans le monde réel. Le monde de séduction est beaucoup plus épais de notre temps que du temps d'Aristote. Ils avaient encore un réalisme là. Tandis que nous avons une peine énorme d'atteindre la réalité. Alors, regardons les carottes, regardons les navets, ça c'est réalité. Regardons le grain de blé qui pousse, c'est la réalité. Vous voyez, quelqu'un qui a habité toujours Paris dans son appartement, il n'a jamais vu de vache. Si ce n'est au cinéma. Il vit dans son monde intentionnel. Et aujourd'hui, comme on fait, on commence par les mathématiques. C'est un monde intentionnel extrêmement intelligent. Et c'est un monde intentionnel. Je ne touche jamais la réalité par les mathématiques. Je touche l'intentionnel humain très distingué. Et très intéressant, puisque je peux tout voir selon mon intention, jusqu'à Dieu, le Dieu de Husserl, qui fait la méta-mathématique. Le Dieu de Husserl, c'est la valeur. Les inédits de Husserl, qui sont à Louvain, il n'avait jamais édité ça, mais il a laissé ses manuscrits. Et puis il a été pris par la mort. Alors quand il a vu Dieu, il a dû brûler la valeur. Les valeurs peuvent être intentionnelles. C'est déjà très beau. C'est très élégant, les valeurs. Mais c'est un monde intentionnel. Vous n'avez jamais vu la valeur pousser toute seule. Et quand vous voyez quelqu'un, « Monsieur, vous êtes de grande valeur. Hein? » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un chapeau haute forme. Vous êtes de grande valeur. Valeur, c'est l'opinion des hommes. Vous êtes estimé, vous êtes honoré. Vous voyez? C'est difficile, hein. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à saisir le jugement d'existence dans sa pureté. Ceci est. Je crois que vous faites cette expérience quand vous vous réveillez d'un cauchemar. Vous dites, ah, heureusement, c'était de l'intentionnel. Et vous étiez entièrement pris par cet intentionnel. Et un cauchemar qui vous a saisi très fortement, il vous faut un petit moment pour quitter l'intentionnel. Vous pouvez très bien vous lever et rester dans l'intentionnel. Aller à l'horizon et rester dans l'intentionnel. Réciter tous les psaumes et rester dans l'intentionnel. Et vous continuez au cours et vous restez dans l'intentionnel. Et vous restez toute la journée. Sauf si votre frère que vous rencontrez vous réveille. Il vous réveille et vous dit, mais quoi, tu as oublié d'aller le petit déjeuner ce matin? C'est très difficile de rester dans l'intentionnel quand on est en face du feu. Parce que ça brûle. Mais il faut quelquefois qu'il se brûle le doigt pour sortir de l'intentionnel. L'intentionnel dans le monde d'aujourd'hui est extrêmement puissant. Le démon joue avec l'intentionnel un grand jeu. Quand il s'y met à jouer un grand jeu, ça c'est... Il connaît les mathématiques. Il connaît ce monde des sciences. Il est à l'aise, là. Il s'amuse de voir que l'homme est saisi par ça et oublie la réalité. L'homme est fait pour Dieu. Il n'est pas fait pour l'intentionnel. Et il sait que l'intentionnel le saisit très fortement. Et alors, la métaphysique, au fond, c'est la sortie, le dépassement de l'intentionnel par le jugement d'existence. Ceci est. Et vous touchez la réalité. C'est pour ça que vous dites que c'est un toucher. Vous ne dites pas que c'est une vision. Non, non, c'est un toucher. Parce que les hallucinations du toucher sont très rares. Quand vous touchez, vous vous réveillez. Quand vous passez du cauchemar au réveil, normalement, vous dites « Ah, je suis sur mon lit. » Oui. Il n'a rien à faire avec le mauvais chien. Mais c'est très important de saisir le dépassement d'intentionnel. Le dépassement d'intentionnel se fait en métaphysique. C'est en ce sens-là que la métaphysique peut beaucoup aider votre foi à décanter l'intentionnalité dans laquelle vous vivez comme chrétien. Comme chrétien, si la foi n'est qu'intentionnelle, on se casse la tête alors. Alors Dieu n'est pas intentionnel quand même. Et alors est-ce que la foi vous fait atteindre directement Dieu par sa parole? La parole de Dieu n'est pas qu'intentionnelle. La parole humaine est intentionnelle. Elle est le fruit de mon intentionnalité. Mais la parole de Dieu, elle provient de Dieu. Et donc, elle est substantielle. Et vous n'avez jamais vu que la parole de Dieu est substantielle. Heureusement que l'Église vous dit, ces livres-là sont inspirés. Donc, la parole est substantielle. Alors, faites attention, hein. Ne dites pas que quand vous jugez, votre jugement atteint la réalité. Non, vous vous fermez sur vous. Alors, c'est ce que je veux voir tout de suite. Au fond, nous sommes en présence, en France, en Europe, en Amérique. Nous sommes en présence d'une métaphysique qui n'a pas commencé par « ceci est », mais qui a commencé par « je suis ». « Je pense, donc je suis ». Descartes n'est pas uniquement français. Descartes avait beaucoup d'acquaintance avec la Suède, beaucoup d'acquaintance avec le Brésil. Autre, Descartes, Kant. L'intentionnalité de Descartes n'est pas celle de Kant. Mais il faut voir l'intentionnalité de Descartes. Il faut voir celle de Kant. Nous en avons deux. Et elles sont fortes, elles collent terriblement. Je me souviens, quand on est arrivé, je connaissais des Lyonnais bons catholiques. Et je ne sais plus, la conversation est arrivée sur Descartes. Alors j'ai dit, Descartes a joué un très sale rôle pour les Français. Alors j'ai vu, mais Descartes, il est très grand. C'est un philosophe merveilleux. Ben oui, ça enfermé dans le je suis. Et le je suis, c'est petit à côté de l'être. Parce que par votre je suis, vous n'allez jamais atteindre Dieu. Oui, alors, c'est très important de réfléchir là-dessus. C'est très bête, hein, c'est très simple, mais c'est très important. Vous avez ici le nom, le verbe. Le langage risque de me couper de la réalité. Parce que vous êtes le plus excellent des animaux et votre langage est admirable. Pour chacun d'entre nous, notre langage est admirable. Nous nous mirons dans notre langage. Nous aimons tellement. Le langage, quand je parle, et je me laisse prendre. Le langage est intentionnel. Vous n'avez pas un langage créateur. Dieu a un langage créateur. Quand Dieu dit le monde existe, l'âme humaine est, la parole de Dieu est créatrice, donc elle est substantielle. Ma parole est intentionnelle, n'est pas créatrice. Elle oriente, l'intentionnalité oriente vers la réalité. Mais vous pouvez rester dans l'intentionnalité. Vous allez voir, hein, quand Jésus dit au serviteur de vin à Cana, remplissez d'eau ces jarres. Ils ont rempli d'eau les jarres. Bon, ils sont passés de l'intentionnalité à la réalité. Et puis quand il dit, puisez-en, conduisez maintenant. Alors là, c'est la réalité, c'est pas la parole qui est changée. C'est la réalité qui est changée dans le miracle. Changer l'eau en vin. Les serviteurs n'ont pas dit « c'est de l'eau, mais puisque Dieu a parlé, c'est du vin ». Alors à ce moment-là, la foi nous ferait mentir. Dieu nous ferait mentir. Croyez que c'est du vin. Alors croyez fortement que c'est du vin. C'est de l'eau, mais je croyais fortement. Non. La foi est réaliste. Elle touche la réalité parce qu'elle est commandée par la parole de Dieu. Vous voyez bien l'intentionnalité. L'intentionnalité est au niveau du langage. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on a tellement de peine à obéir. Parce que vous devez passer de l'intentionnalité de votre supérieur à la réalité. Et vous dites instinctivement, le supérieur n'est pas dans la réalité, il reste dans son intentionnalité. Il est dans son bureau, il vous commande, allez, faites la cuisine. La cuisine n'est pas dans l'intentionnalité. C'est pour ça que ça repose le novice de faire la cuisine. Parce qu'il est obligé de se mettre devant la réalité. Et la réalité nous repose. L'intentionnalité nous fatigue. dans l'intention, il dit, quand vous avez suivi des cours toute la journée, vous les avez suivis dans l'intentionnalité. Et vous faites de la confiture de l'intentionnalité. Et alors, ça mousse. Alors que la réalité nous repose. Et quand vous obéissez, vous passez de l'intentionnalité à la réalité. Parce qu'on n'obéit pas dans l'intentionnalité. Vous voyez, que quoi ça arrive? On dit au supérieur, oui, très bien. Et puis on reste, on revient. Alors le supérieur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'obéis. Comment? Oui, j'ai accepté ce que vous avez dit. Je suis resté dans l'intentionnalité. Elle veut dire, mais pas ce tout. L'obéissance consiste à voir le réel et à le voir comme le supérieur l'a vu. C'est-à-dire de voir que dans l'eau, c'est du vin. Il y avait, heureusement qu'il y avait Marie qui était là, aux servants, pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. C'est très très important de voir le passage de l'intentionnalité à la réalité. Alors voyez ici, le moment, le nom et le verbe est. C'est très intéressant de voir que l'être se manifeste à nous à travers le verbe et pas le nom. Vous voyez, dans ceci est, ceci est entièrement tourné vers est. Dans je suis, vous avez le mouvement inverse. Quand vous dites je suis, ben je suis, tout mon être est dans mon jeu. Je suis. Vous voyez, ça vous fait comprendre la différence d'Aristote et de Descartes, d'Aristote et Kant. Dans ceci est, vous êtes entièrement tourné vers est. Et le ceci est relatif à est. Ceci est. Dans je suis. Le verbe être, c'est le verbe être. Suis et le verbe être est tourné vers le je. Et vous vous enfermez dans votre intentionnalité. Et vous demeurez dans votre intentionnalité. Au point de vue de l'intentionnalité, le je est ce qu'il y a de plus agréable. Et je peux passer une journée en face de mon jeu. Je vais faire ceci. Je vais travailler. Je vais aimer. C'est merveilleux. Je vais faire ça. Et vous restez votre méditation dans le jeu. Et l'être est pris lui-même dans cela. Moi, je suis le moi. Vous voyez, c'est très important de voir que vous avez là deux philosophies totalement différentes. La philosophie qui commence par ceci est, c'est vraiment l'être qui est mis en pleine lumière. Dans la philosophie du je suis, c'est le je. Le bois qui est mis en pleine lumière. Et donc, mais alors vous comprenez, une est ouverte à tout ce qui est, et l'autre est enfermée sur le jeu. Il faut souvent revenir à ça. Parce que c'est, de fait, c'est vrai. Descartes, je suis, je pense donc je suis. Et pour lui, je pense donc je suis, vous voyez. Je pense. En disant je suis, je pense. Et le je pense devient adéquat à je suis. Toute ma pensée, c'est je suis. Toute ma méditation, c'est je suis. Toute ma contemplation, c'est je suis. C'est embêtant pour le voisin. Parce que pour le voisin, vous lui dites, tu n'existes pas, je suis. Je ne te vois que dans la mesure où tu me reconnais. Si tu ne me reconnais pas, je ne te reconnais pas. Oui, c'est l'inverse de la charité. Alors vous voyez, dans ceci est le verbe être est mis en pleine lumière. Et le verbe être n'est pas en moi, il est dans mon voisin. Vous dites à votre voisin, tu es. Tu es pour moi la plus belle des réalités. C'est pas moi, c'est mon voisin. Alors vous voyez, ceci est, ouvre à l'amour, à la transcendance de est. Le je suis ferme à l'amour. Descartes, pour lui, l'amour, c'est la passion. Il n'y a pas d'amour spirituel. C'est effrayant, puisque je suis. Dans le je suis, il y a tout. Je pense sans que je suis. Donc ma pensée est toute tournée vers moi. Oui, au fond, il n'y a que Dieu qui peut dire je suis. En respectant sa transcendance. Et je suis. Et la révélation du je suis. Mais vous n'allez pas dire oh, c'est vrai pour moi. Je suis. C'est vrai que dans le je suis, vous avez une expérience. Bien une expérience intime de l'être. Mais je suis, c'est l'être le plus admirable. Mon je suis, c'est l'être le plus admirable. On le méconnaît, cet être. Il n'y a que moi qui le connais. Vous voyez comment on s'enferme. Je suis fait que on est toujours tourné sur soi. Alors, c'est très important de voir que la philosophie grecque est toute tournée vers l'être chez Aristote. Chez Platon, toute tournée vers les idées. Alors, les idées en soi, vous comprenez ? Elle n'existe que dans ma pensée. Le bien en soi, il n'existe que dans ma pensée. Alors, Platon a au moins cet avantage qu'il regarde toutes les réalités en tant que pensée. Tandis dans je suis, c'est moi. Donc c'est au carré. L'objet et le sujet, l'objet est totalement inclus dans le sujet. C'est le « je » qui absorbe l'attribut, qui absorbe l'objet. Tandis qu'au contraire, quand vous dites « ceci est », Le sujet est entièrement tourné vers l'être, ce qui est. Et je crois que c'est très important de bien voir la différence entre ces deux points de départ du « ceci est » d'Aristote. Aristote le dit très simplement pour lui. C'est une évidence, je ne peux connaître, je ne peux commencer ma philosophie si ma philosophie s'intéresse à l'être qu'en regardant les réalités qui existent et en me regardant. Je suis une réalité qui existe, mais je me regarde dans la lumière de l'être. Et non pas dans la lumière du jeu. C'est la lumière de l'être qui me permet de me regarder et de me regarder d'une façon objective. Je suis une réalité, c'est très vrai. Je suis un homme, c'est très vrai. Et cet homme, je le connais. Est-ce que je le connais aussi bien que l'ami? Ah. Alors quand vous dites à quelqu'un « tu es mon ami », alors « tu es mon ami », c'est toi. Et c'est toi qui, pour moi, prends une importance très particulière, puisque je te vois en tant qu'ami. Je te vois dans l'amour. Et j'ai une nouvelle connaissance alors, une connaissance affective, qui me permet d'atteindre l'autre d'une manière très personnelle. L'autre est un autre moi-même. Vous voyez, l'autre est un autre moi-même. Donc, l'objectivité de l'autre est affirmée d'abord, et la subjectivité de moi-même permet de le connaître intimement, de l'intérieur. Je vois donc qu'il y a deux connaissances, une connaissance objective et une connaissance subjective, affective, qui me permet de faire que l'autre soit connu dans l'intimité. Et quand il s'agit de l'homme, je vois que la connaissance objective de l'homme ne suffit pas. Cet homme, je ne le connais vraiment que s'il est mon ami. Et je le connais en tant qu'il est mon ami. Et donc, dans l'objectivité, je vois que la subjectivité va venir rendre plus profond mon objectivité. Alors, je vois que j'ai deux connaissances totalement différentes. Pas totalement différentes, mais j'ai deux connaissances différentes. La connaissance subjective de l'amitié, ce sera l'éthique. Dans l'éthique, qu'est-ce qui commande tout? C'est la recherche du bonheur. Et la recherche du bonheur, elle m'est donnée dans l'amour d'une personne. Et une connaissance objective, la métaphysique, qui veut connaître l'être. Tandis qu'au contraire, si je commence ma métaphysique par le « je suis », je limite ma métaphysique à moi-même. Et je ne connais plus l'être, je connais moi. C'est le moi qui remplace l'être. Alors ça, c'est très intéressant. Avec Husserl, on met l'être entre parenthèses, et il n'y a plus que le moi. Le moi devient transcendantal. Et c'est la valeur. Si j'estime quelqu'un, cette personne est ennoblie par mon amour. Et donc, j'ai une métaphysique de l'amour qui remplace la métaphysique de l'être. Alors que la métaphysique de l'être ne remplace pas la métaphysique de l'amour. Autrement dit, commencer une métaphysique par « je suis » supprime ceci est. Commencer la métaphysique par ceci est englobe « je suis ». Voyez, l'une m'enferme sur moi et supprime ceci est. L'autre, au contraire, implique ce regard sur tout ce qui est, et donc moi-même. Parce que je suis une réalité. C'est l'immense avantage de la métaphysique, c'est que vous ne perdez jamais votre objet, parce que c'est vous. Et vous pouvez vous regarder comme un être intelligent puisqu'il se regarde. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.